Le journal, Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour. L'hommage des Varois au maire de Signes cet après-midi, trois jours après la mort de cet homme qui tentait d'empêcher des ouvriers de jeter des gravats. Partout en France, des maires réagissent à ce décès et dénoncent de nombreuses incivilités et violences. On l'entendra. Le GIEC remet son rapport sur le changement climatique tout à l'heure à Genève. Parmi les secteurs les plus polluants pour la planète, l'agriculture. Les agriculteurs français sont conscients des efforts à fournir, promet la FNSEA. La chasse à l'homme semble avoir pris fin au Canada. Les corps des deux meurtriers présumés recherchés depuis 15 jours pourraient avoir été découverts dans une forêt de la province du Manitoba.
8h moins le quart, l'invité de France Inter, Alexandre Sanson. Il est commissaire d'une exposition sur le dos dans la mode, l'image du dos au fil du temps dans la mode. C'est au musée Bourdel à Paris.
L'hommage des habitants de Signes à leur mère cet après-midi avec une marche blanche dans les rues du village. Les obsèques de Jean-Michel auront lieu demain matin. Lundi soir, celui qui était maire de la commune varoise depuis 1983 est mort percuté par une camionnette alors qu'il tentait d'empêcher un dépôt sauvage de gravats. Le conducteur du véhicule est mis en examen pour homicide involontaire. Depuis l'annonce de la mort de Jean-Michel, nombreux sont les élus locaux à témoigner des difficultés et même des dangers parfois à exercer leur mandat. Insultes, menaces, agressions, les situations tendues avec les administrés semblent se multiplier. Illustration en Moselle avec le reportage de Julie Seignura.
Gérard Simon est le maire d'Autonville, moins de 500 habitants près de Boulay. En deux mandats, il a été plusieurs fois pris à partie.
Pour la plupart des plaintes que j'ai déposées, le procureur les classe généralement sans suite. Donc je me sens même perdu. D'abord, on perd du temps pour aller déposer des plaintes. Si malheureusement les personnes ne sont pas condamnées, les incivilités continuent. On n'est pas trop assisté non plus par la gendarmerie. Le temps qu'ils viennent chez nous, c'est déjà passé. On se sent trop seul pour faire respecter, je dirais, la loi.
Les maires des petites communes dénoncent depuis longtemps les finances toujours plus serrées, les services publics qui disparaissent, les lourdeurs administratives. Avec une dizaine de collègues, Denis Butterbach, depuis 5 ans à la tête du village de Valminster, a monté un groupe d'échange et les violences font désormais partie de leurs discussions.
Je sais que d'autres maires se sont fait agresser. Comment ils ont réglé leurs problèmes, c'est important pour moi de le savoir. Moi-même, j'ai été victime d'une agression verbale. J'ai géré ce problème tout seul dans mon coin, mais le fait de se dire, comment on peut répondre à telle problématique, ça va servir aux autres.
Les maires ruraux de Moselle veulent du respect, pas plus de pouvoir. Jean-Marie Mison, leur président.
Lorsqu'un maire veut mettre un PV à un administré, il y a une procédure telle que c'est totalement décourageant. Il faudrait mettre en place des solutions plus pratiques, plus simple pour qu'on ait les moyens d'y faire face.
À 7 mois des élections municipales, ces difficultés pourraient dissuader certains maires de rempiler pour un nouveau mandat.
Julie Seignura de France Bleu Lorraine Nord. Le successeur de l'Aquarius est bien parti pour connaître les mêmes difficultés. Hier soir, Malte a refusé l'accès au navire humanitaire Ocean Viking qui souhaitait faire un plein de carburant. Selon le responsable de l'ONG SOS Méditerranée à bord de ce bateau, les autorités maltaises avaient dans un premier temps donné leur accord pour un ravitaillement avant finalement d'interdire l'entrée dans leurs eaux territoriales. L'Ocean Viking a quitté Marseille en début de semaine avec à son bord une vingtaine de sauveteurs. Le bateau se dirige vers les côtes libyennes, d'où partent actuellement de nombreuses embarcations de fortune transportant des migrants. La brigade des stupéfiants de Nice vient de démanteler un important trafic de drogue de synthèse. Les policiers ont saisi au domicile d'un homme de 37 ans dans le centre-ville de Nice plus de 500 grammes de 3 MMC et 1 litre de GBL, un solvant industriel qui sert normalement à nettoyer les jantes de voiture ou à effacer les graffitis, mais qui est de plus en plus utilisé pour ses effets proches du GHB. Le GBL, une drogue particulièrement dangereuse, mais actuellement très prisée dans le monde de la nuit sur la Côte d'Azur. Erwan Lehaut est le président du centre LGBT de Nice.
Cette drogue, elle est particulière et ce qui fait qu'il y a eu des cas graves, des cœurs qui s'arrêtent, des gens dans des comas profonds, des décès également. Il y a eu quelques cas notamment en Île-de-France l'année dernière. Il faut simplement que les gens soient conscients de la drogue, de ses effets et des interactions qu'elle a. C'est-à-dire que c'est une drogue qui se présente souvent sous forme liquide. En mettre une goutte pour l'absorber, ça passe. Si on en met 2 ou 3 gouttes, c'est un excès et le cœur est en mesure de lâcher. C'est une drogue aussi qui n'a pas une bonne interaction du tout avec l'alcool. Il a un effet explosif dans l'organisme, pareil, et la personne peut tomber dans le coma, voire son cœur peut lâcher.
Des propos recueillis par Marion Chantreau de France Bleu Azur. L'armée israélienne l'annonce à l'instant, le corps d'un soldat israélien portant plusieurs coups de couteau a été découvert aux abords d'une colonie juive en Cisjordanie, près de la ville d'Hébron. Pas plus de précisions pour le moment. Sans doute la fin de la traque qui aura tenu les Canadiens en haleine pendant plusieurs semaines. La police du Manitoba, province du centre du Canada, a annoncé cette nuit avoir découvert deux corps qui pourraient être ceux des présumés meurtriers recherchés depuis le 22 juillet. Ces deux jeunes hommes de 19 ans étaient suspectés de 3 meurtres, Pascal Guéricola.
Même si la police avait découvert les restes de la voiture incendiée de Brian Schmegelski et de Cam McLeod le 22 juillet, il a fallu 2 autres semaines pour retrouver ce qui semble leur corps, à seulement 8 km de là. La police refuse de spécifier la cause et la date de leur décès et évoque une prochaine autopsie avant de confirmer vraiment leur identité. L'armée et les forces de la police n'ont pas ménagé leurs efforts pour tenter de retrouver les deux jeunes hommes suspectés de meurtre. Des drones, des avions militaires ont quadrillé les airs, tandis que des patrouilles à pied et en véhicules tout-terrain arpentaient cet immense territoire boisé. Finalement, c'est la découverte d'objets appartenant au duo en cavale qui a permis de resserrer le périmètre de recherche autour d'une rivière. Il s'agit d'une zone très sauvage où vivent beaucoup d'animaux et où pullulent les insectes en été. Même si apparemment les suspects s'intéressaient au survivalisme sur Internet, plusieurs spécialistes doutaient de la survie possible de jeunes hommes dans une zone qu'ils ne connaissaient pas. À Québec, Pascal Guéricola pour France Inter.
Il est 7h36, Alexis Demeyer. Les experts du GIEC, le groupe international sur le climat, rendront en fin de matinée un rapport très attendu. On y reviendra d'ailleurs avec notre invité ce matin à 8h20 sur France Inter, Cyril Dion, militant écologiste, réalisateur de documentaires. Il est un des garants de la fameuse convention citoyenne pour le climat promise par Emmanuel Macron.
Oui, ce rapport du GIEC va notamment tenter de répondre à la question suivante. Comment nourrir les 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050 tout en luttant contre le réchauffement climatique? Les experts du GIEC sont formels. Partout dans le monde, les agriculteurs vont devoir s'adapter afin de moins polluer. Actuellement, l'agriculture et la déforestation représentent jusqu'à 30% des émissions de gaz à effet de serre. Manuel Ruffez, la FNSEA, principal syndicat agricole en France, joue l'apaisement en se disant parfaitement conscient de la révolution qui s'annonce pour la profession.
Il résume la problématique d'une phrase. Olivier Dauger, responsable climat à la FNSEA. Nous, agriculteurs, dit-il, nous sommes bien conscients du réchauffement puisque qu'on le subit de plein fouet, mais l'agriculture, soutient-il aussitôt, est à la fois victime, cause et solution à ce phénomène. Alors ce rapport, il ne faut pas le craindre.
Il faut voir ce rapport comme un rapport de travail pour aller de l'avant, encore une fois, plus que comme un rapport anxiogène, pour se renfermer sur soi-même et dire, voilà, il faut tout arrêter, il ne faut plus rien faire, il faut faire des efforts, aussi bien au niveau alimentaire que prendre l'avion, prendre moins sa voiture et tout ça. Mais il ne faut pas non plus dire on arrête tout, on revient comme 200 ans en arrière, sinon on ne s'en sortira pas.
L'agriculture source de solutions, voilà ce qu'il défend, solutions notamment pour réduire et capter les gaz à effet de serre. Et puis surtout, il faudra quand même bien nourrir un jour 10 milliards de personnes sur cette planète.
Certes, il y a une mutation très forte. Certes, on ne mangera peut-être pas demain ce qu'on mange aujourd'hui exactement, mais c'est quelque chose plutôt vertueux plutôt que bâton. On aura moins d'eau sans doute, il faudra mettre moins de phyto, on aura des problèmes d'engrais, on aura des problèmes d'érosion de terre, on aura sans doute moins de terre parce que l'artificialisation des terres avec l'augmentation de la population sera là, mais il n'empêche qu'il va falloir produire plus.
J'ai hâte de découvrir ce rapport, affirme encore Olivier Dauger. Pas d'inquiétude, on passera le cap, la France a tout le potentiel pour ça.
La lutte contre le réchauffement climatique, c'est aussi l'objectif d'un nouveau défi sur les réseaux sociaux. Après le ludique, mais pas particulièrement écolo, Bottle Cap Challenge, place maintenant au Fill the Bottle Challenge. Fill the Bottle, ça signifie « remplis la bouteille » en français dans le texte. Partout dans le monde, des jeunes se filment en train de remplir des bouteilles avec des mégots de cigarettes. Delphine Evenou, c'est une jeune habitante de Seine-et-Marne qui est à l'initiative de ce challenge.
Au pied de son immeuble de banlieue parisienne, accessoire tout simple, en main.
Bah là, j'ai pris une bouteille.
Amel vient d'avoir 18 ans, le bac scientifique et l'idée du Fill the Bottle Challenge.
Et puis on va marcher un peu, peut-être 100 mètres, 200 mètres, et puis on va essayer de ramasser un maximum de mégots, de déchets aussi.
Pas besoin d'aller bien loin.
Ouais, 50 cm et déjà pas mal de mégots, et encore là, on n'a pas fait le tour. On va essayer de trouver une poubelle pas loin. Là-bas, il y en a une. Un mégot pollue 500 litres d'eau, prend entre 12 et 25 ans à se dégrader dans la nature. C'est quand même quelque chose de conséquent et ce tout petit bout de déchet peut avoir d'énormes conséquences.
Greta Thunberg en modèle et pas l'intention de fuir sa responsabilité.
Il faut qu'on arrête de mettre la faute sur les autres, qu'on arrête de se dire qu'on peut rien faire. Il y a un moment ou un autre, il va falloir prendre les choses en main, il va falloir agir. Chaque petit geste additionné, ça peut faire beaucoup. Et vu qu'on est des milliards, si on additionne tous ces milliards de gestes, on peut changer ça.
Le défi de la jeune Amel a déjà été relevé des milliers de fois, y compris pris par l'acteur Jamel Debbouze, photo à l'appui. Julie Sauvêtre de l'ONG écologiste Zero Waste ne crache pas sur ces coups de pouce citoyens.
La viralité de ces challenges, quand ils sont réussis, va peut-être en fait donner envie à des gens de creuser la question des déchets ou la question du réchauffement climatique de manière plus large. Donc ces challenges, ils sont complémentaires des actions portées par les ONG.
En France, 30 milliards de cigarettes sont jetées par terre chaque année. Amel et les internautes ont encore de quoi faire.
Le sport maintenant, le football avec ce soir le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa pour Strasbourg.
Oui, les Strasbourgeois se déplacent en Bulgarie. À partir de 19h30, ils affronteront l'équipe du Lokomotiv Plovdiv, un club au passé très sulfureux, comme le confirme un joueur français qui a joué à Plovdiv il y a quelques années et qui souhaite rester anonyme. Luc Dreosto a pu recueillir son témoignage.
Ce retraité des terrains a vu le président du Lokomotiv Plovdiv truquer des rencontres.
On devait par exemple créer un penalty ou perdre par 3 buts d'écart, mais tout était évolutif par rapport au match, parce que comme c'était des paris en live, tout pouvait changer à tout moment en fait. Et à partir de là, on s'arrangeait pour que le déroulement du match pouvait satisfaire le président. Et voilà, une petite prime au bout, ça pouvait aller jusqu'à 1000 euros. Et je pense que eux, à côté de ça, ramassaient beaucoup plus.
Le président de l'époque se promenait entouré de gorilles armés, car plusieurs de ses prédécesseurs avaient été assassinés. Il avait pour habitude de payer les joueurs au noir et de faire valser les entraîneurs.
J'ai pu avoir 4 coachs différents. Sur les 4 coachs, il y en a un qui était agent au début de saison. Quand un ancien agent en fait ramène ses joueurs, lui, son intérêt, c'est de les faire jouer pour pouvoir les vendre et récupérer de l'argent aussi, donc c'était un peu tout n'importe quoi, c'était folklorique.
Notre attaquant avait signé un contrat de 2 ans et demi au Lokomotiv, mais au bout de 6 mois, il est reparti sans trop de regrets, après une dernière entrevue avec le manager général.
Il m'a fait comprendre qu'en fait, je devais prendre une certaine somme d'argent qui était bien loin de la moitié de ce qu'il me devait, et que si j'étais pas satisfait avec ça, j'aurais des soucis en fait. Donc au final, quand vous êtes tout seul là-bas, vous faites pas le malin, vous signez, et puis voilà.
La situation semble apaisée au Lokomotiv depuis l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président il y a 4 ans. Le club fait désormais parler de lui davantage par ses résultats sportifs. Il a remporté en mai dernier pour la première fois la Coupe de Bulgarie.
Un mot de basket aussi avec la victoire au goût amer de l'équipe de France hier soir. Les Bleus se sont largement imposés face à la Tunisie 96-56 en match de préparation au Mondial qui débute fin août. Mais les joueurs de Vincent Collet ont aussi appris le forfait de leur meneur titulaire Thomas Hurtel, 75 sélections avec la France, est blessé au genou.